Ok, nous sommes au troisième cours sur Onat Dvarim. Onat Dvarim, c'est faire du mal. Donc initialement, Onat Dvarim, Dvarim signifie la parole, avec la parole, mais c'est élargi à toutes les façons de faire du mal, en acte, en signe, en quoi que ce soit. Il y a aussi des façons qui sont indirectes. Indirectes, en ne faisant pas une action, ou en signe. Alors par exemple, en signe, il y a une Gemara, d'ailleurs on apprend la Khumra, la gravité, de Onat Dvarim, de faire du mal à son prochain, c'est dans Bava Metzia Nun Chet 58. La Gemara dit qu'au Bet Midrash, David Amelech étudie la Torah, à la Yeshiva, avec les autres étudiants de Torah. Du coup, il demandait comme ça, les élèves demandaient à haute voix à David Amelech, dis-moi David, quelqu'un qui a une relation avec une femme mariée, c'est déjà quoi sa sentence? Parce que le roi David a une relation avec une femme mariée, qui n'était pas mariée vraiment. Bon, la Gemara dit que tout celui qui dit que le roi David a péché ne peut que se tromper. Mais en tout cas, on va dire, ce n'était pas un nickel-nickel. Alors, on dit à David, dis-moi, David, c'est quoi? Rappelle-moi juste la halakha comme ça, toi qui es bien branché sur le sujet. Un homme qui a une relation avec une femme mariée, c'est quoi déjà sa sentence? En deux mots, on lui fait honte en public. Alors la Gemara raconte que David Amel répondait, celui qui a une relation avec une femme mariée, alors sa sentence c'est Henek. Mort, s'il y a deux témoins, c'est mort avec par étouffement. Mais il n'a pas au monde futur. Mais celui qui fait honte à son prochain, comme tu es en train de faire, mon cher ami, ça ne lui disait pas, c'était sous-entendu, il n'a pas peur au monde futur. Amabin Pnechavir Barabim, celui qui fait honte à son prochain futur, n'a pas peur au monde futur. Comme ça, il le rendait. De là, nous apprenons la gravité de faire honte à quelqu'un. On en parlera encore beaucoup parce que c'est un sujet qui est extrêmement grave et extrêmement répandu. La Gemara dit, à quoi faisait-on le plus attention en terre d'Israël? La Gemara est écrite en terre de Babylone. Et la Gemara, le Talmud, vante toujours la qualité de la Torah qu'il y avait en terre d'Israël. C'est marqué qu'il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Israël. C'est encore valable aujourd'hui, d'accord? Toutes les Torahs du monde ne vont pas à celle qu'il y a en Israël. Alors, la Torah d'Israël était spéciale, parce que c'était vraiment des grands tzadikim qui étaient en terre d'Israël. Et quelle était leur spécialité? Quel est l'acte plus grand que font, à quoi font le plus attention les grands tzadikim d'Israël? Ne pas faire honte à leur prochain. Ne pas faire rougir, ni de faire blanchir de honte. Donc c'est un péché qui est grave, on en reparlera, parce que c'est un sujet qui doit être beaucoup développé. Mais néanmoins, là, si j'illustre cela, c'est par signe, c'est pas je vais faire du mal directement, je lui dis t'es un imbécile, espèce de tordu. Je lui fais comme ça, dis-moi juste une question d'Alaha comme ça. Tu te rappelles un peu de la loi de celui qui a une relation avec une femme interdite, quelle est sa sentence? C'est comme si je suis innocent, mais en fait je sais très bien que je vais faire du mal à mon prochain. Ou bien n'importe quel cas, quand je rappelle une chose, même sans vouloir faire honte, il y a des choses, des gens, qui à certains sujets, quand on leur rappelle ce sujet, ça leur fait mal. Quelqu'un, par exemple, son fils est marié avec une non-juive. Et c'est le pauvre, sa vie n'est plus une vie depuis ce jour-là. Et toi, hop, tu parles du sujet maintenant. Oui, l'assimilation, c'est terrible, il y a tellement de gens qui se marient avec des non-juives. On ne parlait pas de ça, tu rappelles ce sujet. C'est, en bon français, c'est un manque de tact. En bon Torah, ça s'appelle transgresser un interdit de Onat Dvarim. C'était fait volontairement. Si je voulais lui faire du mal. Un type, il a un fils drogué, c'est drogué, hein, c'est terrible. Tu fais comme si tu n'étais pas au courant que le fils, d'accord? Tu lui fais mal. Tous ces cas-là où on va de façon soi-disant détournée rappeler un sujet qui fait mal à quelqu'un, alors on transgresse Onat Dvarim. Il faut faire très attention parce que des fois, on ne se rend pas compte. On a vu que si on faisait Onat Dvarim, on faisait du mal à quelqu'un sans se rendre compte, c'était pas fait, on n'a pas transgressé. Mais néanmoins, c'est pas bien. On doit essayer d'arriver à ne pas faire de mal à son prochain. Donc, même de façon détournée, comme cela. Des fois, sans faire aucun acte, on transgresse aussi Onat Dvarim. On fait mal à quelqu'un. Comment, par exemple, il y a un livre qui était écrit au Moyen-Âge, Sefer Hasidim. Rabbi Yehuda Hasid. Rabbi Yehuda, le Hasid, le pieux, il a écrit ce livre-là au Moyen-Âge. C'est un grand livre de Moussar et de beaucoup de halakhot spéciales, on va dire. Là-bas, il raconte une histoire authentique qu'un homme a perdu tous ses enfants mal. Ils sont tous morts. Et quand lui-même, après 120 ans, il commençait à agoniser, alors il a dit, je sais pourquoi. Maintenant, je vous dévoile pourquoi mes enfants sont tous morts. J'avais une sœur qui était mariée avec un monsieur. Ce monsieur est décédé, elle était veuve. Elle a hérité beaucoup, beaucoup d'argent. Maintenant, cette sœur m'a demandé de lui retrouver un chidour, de lui trouver un monsieur qu'elle puisse se remarier. Et moi, exprès, je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour que le jour où elle mourra, je pourrais, moi, hériter de tout l'argent qu'elle avait. Elle a hérité l'argent de son mari, elle est Madame Rothschild. Maintenant, moi, si je la remarie, qu'est-ce qui se passe? Elle va avoir des enfants avec le nouveau mari, et c'est les enfants qu'elle aura qui vont hériter. Tandis que si elle n'a pas d'enfants, qui va hériter? C'est moi. Donc je ne vais pas la remarier. Il a évité de faire un acte, mais il a reconnu que c'est tellement grave que, vu que lui, il a empêché cette femme d'avoir des enfants, Mida Kenegel Mida, mesure pour mesure, ses propres enfants à lui aussi ont disparu. Lui-même a reconnu cela. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Hasidim. Donc nous voyons que par le manque de faire un acte, tu peux aussi transgresser, faire du mal à ton prochain. Ou bien, des cas hélas qui sont des cas courants, dans une famille, une querelle entre deux frères, par exemple, et les pauvres parents doivent subir, en quelque sorte, les conséquences. Je ne parle pas de petits-enfants qui se tapent dessus, comme il y a dans toutes les familles, mais vraiment, voilà, deux frères qui ne se parlent plus. Et voici qu'un se marie, l'autre ne vient pas au mariage. Et les parents souffrent terriblement que l'autre ne vient pas au mariage. Ou chaque cas similaire qui sont hélas courants dans les familles où on n'arrive pas à mettre le shalom. D'accord ? Alors c'est pas qu'il a fait un acte actif contre son fils, contre son frère. Il a fait du mal aux parents et aux frères en démission d'acte. Je viens pas à ton mariage. Mais ça, c'est considéré aussi comme faire du mal. C'est pas que tu as mangé du portail, tu as fait un acte, tu as quelque chose. Tu as empêché. C'est comme si maintenant tu as en train quelqu'un qui est en train de se noyer dans le fleuve, et tu sais très bien nager, tu peux le sauver, et puis tu tournes les pouces, d'accord? C'est certain que c'est interdit de faire une chose pareille. Non assistant ces personnes en danger, la loi dans la Torah, c'est l'otamod al-dam recha. Tu ne resteras pas impassible face au sang de ton prochain. L'obligation que nous avons, nous tous, de nous sauver les uns les autres.
Là, il a transgressé les deux, alors.
Pardon?
L'otamod al-dam recha, mais...
Non, dans ce cas-là, il a pas transgressé l'otamod al-dam recha. J'ai illustré cela, j'ai parlé de cela pour illustrer le cas où tu peux faire un péché grave en démission. Là, il a fait un péché de faire du mal à son prochain, à son entourage, par démission, par le fait qu'il ne participe pas aux joies familiales. C'était voulu, bien sûr. Pourquoi il vient pas au mariage?
Son frère, mais il va faire du mal à ses parents.
Mais il sait. On a vu que si on sait pertinemment que ça fera du mal à quelqu'un, si on a vu cela. Si maintenant, je n'ai pas l'intention de faire du mal à ma mère. Moi, j'ai l'intention de faire du mal à mon frère. Mais quand je ferai du mal à mon frère, de façon certaine, ça va aussi faire par ricochet du mal à ma mère, c'est interdit. À moins que ce soit une chose nécessaire pour moi, pour la façon normale de vivre. On a vu ici quelqu'un maintenant, il y a deux frères dans la famille, le frère aîné et le frère cadet. Maintenant, le frère aîné, monsieur n'a pas encore trouvé la fille qui va exactement à ses goûts. On a parlé de ça, n'est-ce pas? Il veut Miss Monde, il n'a pas encore trouvé. Il a fait 200 chidouchim, il n'a pas encore trouvé. Maintenant, il a 26 ans. Le frère qui a 22 ans, il a trouvé une fille qui va très bien, il veut se marier. Le frère de 26 ans dit, écoute, tu passes avant moi, ça ne se fait pas. Tu me fais du mal. Est-ce que le gosse de 22 ans peut se marier? On a vu ça ou pas? On n'a pas vu ça ensemble. Le gosse de 22 ans maintenant, il peut se marier, oui ou non? Il peut se marier. Pourquoi? Parce que c'est pas maintenant que si je veux vivre ma vie normale à l'âge de 22 ans, on doit se marier. Je ne vais pas m'empêcher de vivre ma vie normale parce que monsieur maintenant fait la fine bouche. D'accord? Je lui ferai du mal, je sais que je lui ferai du mal. Je fais exprès pour lui faire du mal? Non. On ne peut pas m'empêcher de vivre ma vie normale sachant que par ricochet, ça fera du mal à mon prochain. Mais si maintenant, ce n'est pas ma vie normale, je viens pas à un mariage familial, parce que ça t'apprendra pour la bagarre qu'on a eue il y a 10 ans. Je lui parle plus. Voilà, on est en froid. Ça, c'est pas normal d'être en froid. C'est pas normal. Tu dois faire un effort maintenant et venir quand même. Rien que pour le sourire de tes parents.
Et si on casse les pieds au grand frère, le grand frère, on va lui gâcher son mariage parce que...
J'ai pas compris.
Si le grand frère, quand il va voir son petit frère, il va être dérangé.
Alors là-bas, allez chez le grand frère. De quoi tu parles maintenant? Celui qui se marie ne veut pas voir son frère qui va venir au mariage, d'accord? Alors lui, s'il empêche son frère de venir au mariage, alors il ferait du mal à ses parents.
Et s'il a le choix?
C'est la même chose.
Qu'est-ce qu'il doit faire?
J'ai pas compris.
Le petit frère
se marie, tu parles maintenant. Hein, on parle d'un grand frère qui se marie, un petit frère maintenant qui veut pas venir au mariage parce qu'ils sont en froid. Lui, il sait pas. Alors il doit faire en sorte de la mère. Il va appeler sa mère et dit « Moi, je viens au mariage. » Ou bien, on veut envoyer un message au grand frère, lui disant « Je viens au mariage, pas pour toi, parce que je sais que tu ne veux pas me voir, mais je viens pour pas baisser maman. » Voilà, et le grand frère, j'espère qu'il aura suffisamment de jugeotes intelligentes. Sinon, il faut faire intervenir des gens intelligents qui lui parlent. Un sujet qui est aussi hélas courant, et si on le transgresse, on transgresse de nouveau Onat Dvarim. C'est une chose que beaucoup de gens adorent des fois dans leur jeunesse, c'est faire peur à leur prochain. Tu te mets vers la porte, il passe, il fait « Wouah !» D'accord, lui, il saute 3 mètres. D'accord, comme c'est sympathique, il n'y a rien de plus rigolo dans la vie que cela, mais il a souffert. On a transgressé Onat Dvarim. Ou bien...
Le mari et sa femme...
Ouais.
Il est mochel,
S'il est mochel, avance.
Si
la personne, elle dit à l'avance, tu peux toujours me faire peur, je suis mochel, je pardonne cela, et même au contraire, j'aime bien, ça met une ambiance sympathique dans la maison, ça va. Mais sinon, non. Sinon, non. Faire peur à des enfants. Tu vois des chenapans maintenant qui sont des histoires. J'appelle la police, voilà. Tu leur fais peur, d'accord? Je dirai à vos parents. D'accord? Si c'est plus que ce qui est nécessaire au niveau, on verra que des fois on peut faire du mal aux gens pour le chinour, pour l'éducation. Mais là, tu exagères trop. Mange ta popote ou le chien va te mordre. Ça va. Et le gosse, il est comme ça. Ça, c'est des choses qui sont interdites. Bien sûr, apprendre une mauvaise nouvelle, dire une mauvaise nouvelle à quelqu'un, surtout s'il est déjà vieux, il est cardiaque, c'est très dangereux, des fois il peut y passer. On voit que la Torah raconte que comment est morte Sarah Imenu, le Satan lui-même, donc le Etzerara est venu, il lui a dit, sache, ton fils Yitzhak est allé pour se faire égorger au Mont Moria. Et il n'a pas eu le temps de lui dire, Baruch Hashem, il est vivant, que déjà, elle a entendu ça, hop, elle est morte de crise cardiaque. Sarah Imenu. Donc, faire attention de ne pas raconter une mauvaise nouvelle trop rapidement.
Comment on raconte de toute façon une mauvaise nouvelle? Parce qu'il
y a alors, toujours un risque. Alors, on y va, j'allais le dire, on y va par palier. D'abord, on n'est pas obligé de raconter une mauvaise nouvelle. Il y a une halakha. Nous savons maintenant que quelqu'un est cardiaque. Une dame de 80 ans, elle est cardiaque. Maintenant, son fils est décédé. Est-ce qu'on lui dit oui ou non? On ne lui dit pas. La halakha, elle est claire. Bien sûr. Bien sûr. Pikuach nefesh. Bien sûr, on ne prend pas de risque de tuer quelqu'un pour dire...
Il n'y a pas l'enterrement
de son fils? Il n'y a pas l'enterrement, il n'est même pas au courant. Rien.
Mais c'est pas ça qu'il y a des fachotes.
Il y a une histoire. Il y a une histoire. Terrible. Terrible dans les deux sens. Elle est terrible parce qu'elle est un peu tragique, mais elle est terrible de voir dans quel monde nous sommes et dans quel monde vivent les grands. Rabbi Akiva Eiger, sa fille était marquée. Rabbi Akiva Eiger, c'est un des plus grands rabbins, en tout cas des 5 derniers siècles, un géant, d'accord? Un géant, ça veut dire un géant. Il a marié sa fille au Khatam Sofer. Khatam Sofer, c'est un deuxième géant. Et sa fille est décédée. Khatam Sofer n'a pas annoncé la nouvelle à son beau-père. Pour des raisons XYZ, il ne voulait pas, pour ne pas lui faire du mal, etc. Un jour, il reçoit un télégramme du Rabbi Akiva Eiger. En attendant, Khatam Sofer s'est remarié avec une autre femme. Rabbi Akiva Eiger envoie un télégramme. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma fille. Je suis de passage à Francfort. Francfort, c'était Die Mainz, c'était la ville dans laquelle le Khatam Sofer était rave. Je viens vous visiter. Shabbat prochain. Khatam Sofer voit ça, mais ça va, je sais comment je vais faire, tout ira très bien. Rabbi Akiva Eiger arrive vendredi après-midi à la gare. Khatam Sofer va le chercher et lui dit, tu sais, je viens de sortir du Bedin, maintenant on a eu un cas spécial, un cas de Gittin, il commence comme ça, il te palpelle. Et les deux discutent, ils rentrent à la maison, ils sont en train de discuter, il va vite se doucher, hop, ils vont à la synagogue, ils discutent comme ça, ils sont à table, ils discutent, la dame, elle amène juste à manger, elle repart comme ça, ils discutent, après ils vont dormir, ils discutent, tout le Shabbat, ils disent, elle a encore pensé un truc, ils discutent. Moshe Shabbat, il reprend le train, hop, Rabbi Akiva Eiger envoie un télégramme. Je me suis rappelé en route que j'ai oublié de voir ma fille. Alors tu lui souhaites tous mes souhaits de bonne continuation, un drichal shalom, chaude salutation.
C'est possible.
Alors comme ça l'histoire. Alors comme ça l'histoire elle raconte. Maintenant moi c'est une histoire que de temps en temps je m'en souviens. Alors il y a deux solutions. Ou bien vraiment Rabbi Akiva Eiger n'a rien vu dans le feu de l'action. Ou Rabbi Akiva Eiger il a très bien compris. Et pour pas mettre mal à l'aise le Khatam Sofer, il a joué le jeu. C'est tout à fait possible. Rabbi Akiva Eiger, vous connaissez l'histoire. C'était un gars, on lui donnait 37 cours par jour de Torah. 37 cours par jour. Et quand sa femme a décédé, il a dit, et je parlais avec ma femme des fois très tard dans la nuit, on parlait comme ça de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, de comment mieux servir Dieu. Bah, c'est des choses qui nous échappent complètement. Quel degré de Torah? Alors on peut tomber dans le piège d'habitude de t'es un grand Torah, mais t'es un nul dans les relations avec les autres. L'histoire raconte qu'un beau jour, quelqu'un était invité chez Rabbi Kevayger, Shabbat, c'est une histoire archi connue. Et être invité chez Rabbi Kevayger, comment tu es? Bah t'es déjà comme ça, d'accord? T'es en face du grand rabbin. Il y a, je vous dis, peut-être dans les 500 dernières années, il y avait 2-3 personnes qui étaient de son calibre, en tout cas en Europe. Énorme! On sait que dans la Gemara, quand on a un Gilyon HaShas, quand on a une Kushiya de Rabbi Kevayger, ça on sait, c'est béton. C'est presque impossible de trouver une solution à une couche à l'herbe qui veille à la guerre. C'est des choses qui ne sont pas du domaine de la normalité. D'accord? Alors déjà, tu es chez lui, c'est chez ce grand géant. Juste avant de raconter l'histoire aussi pour dire quel knoucha il avait cet homme-là. Un jour, on lui a demandé de prier pour quelqu'un qui était malade. Alors, il reçoit le télégramme avec le nom, tout ça. Il renvoie le télégramme et dit « ça ne doit pas être le vrai nom, parce que quand je prie, je sens que ça ne passe pas. » C'est pas le vrai nom. Quelqu'un qui, quand on lui a un nom, il dit, c'est pas le vrai nom, d'accord, c'est, il a un haut degré. Alors, tu es à la table de ce monsieur. Donc déjà, il a un radar, il sait qui tu es, il te scanne déjà, tu es comme ça, d'accord. Bon, et tu es à table, et voici que par un... On te sert le coup de poisson, et toi, tu fais un acte, un mouvement malencontreux, et le verre de vin rouge se... tombe sur la nappe blanche. Tout à coup, une tache rouge sur la nappe blanche du Rabbi Kevayger Shabbat soir. En bon français, ça la fout très mal. D'accord? Donc il risque de devenir aussi rouge que la Rabbi Kevayger. Qui sait combien c'est grave de faire honte à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on ferait? C'est pas grave, justement, ben, ça fait très joli. C'est pas... À la seconde, même pas, il réfléchit. Mais à la seconde, tac, son verre aussi, il tombe. Il dit, cette table est très branlante, c'est vraiment, il faut arranger cette table, Motsé Shabbat, regarde ce qui m'est arrivé. Lui, il a fait, mais en une seconde, c'est un mouvement, il faut y aller, hein, renverser un verre de vin. C'est l'agilité d'esprit pour ne pas mettre son prochain mal. Ça, c'est Belam Havero. Ce que nous voulons, Bézat Hachem, enseigner ici, combien c'est important la relation entre l'homme et son prochain. Alors, donc il se peut que Rabbi Kevayger a vu que sa fille n'était pas là, il n'a pas posé trop de questions, et peut-être, ou peut-être que non, ils s'est pris dans l'étude les deux, et ils n'ont pas fait attention. Ça on saura quand on arrivera au Lama Bas, si on a la chance d'aller leur demander, Rabbi Kevayger, ce qui m'étonnerait, c'est quand même des gens qui sont très très hauts. Donc faire peur à son prochain, Sarah Imenu. Donc comment on va pour répondre, je ne sais pas qu'on arrive à tout cela, pour annoncer la nouvelle, s'il y a besoin, nécessité. S'il n'y a pas nécessité, on n'annonce pas. S'il y a nécessité, on annonce. D'abord, on n'est pas obligé d'annoncer la gravité d'une chose. On peut dire que quelqu'un est mal, par exemple, là, c'est découvert une très très sale maladie. On dit, il est pas très bien, tout ça. On n'est pas obligé de tout dire. Un enfant qui a un accident, pas obligé de dire, maman, j'ai eu un accident, je vais me faire écraser, la voiture est venue. Et t'es pas obligé de mettre... C'est pas obligatoire toujours de faire... Si déjà on doit dire, on ira par palier. Commencer un peu plus, après un lendemain encore un peu plus, comme ça, pour pas... Par palier, on peut y arriver. Comme a fait, c'est aussi valable pour une bonne nouvelle, Yaakov Avinu, son fils Yosef, a disparu depuis 22 ans. Comme on lui annonce la nouvelle, risque de mourir sur le coup. Yosef est vivant. Crise cardiaque. J'ai lu dans un livre sur la Shoah, c'était terrible, à la fin de la Shoah. Les Américains rentrent dans les camps. Au Rachem, c'est la libération. À l'infirmerie, il y avait des malades. Il y avait un malade là-bas. On lui dit, c'est la libération. Lui est en train de souffrir, agonisant. La libération, les Américains sont là. Il n'entend rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené un soldat américain, avec le casque, le truc. Il a vu ça? Crise cardiaque, il est mort. Terrible. La libération. On aurait dû aller encore lentement, très lentement. Lui dire, enfin, un drapeau américain, bien, ils sont en train d'arriver, on est en train de gagner. Lentement. Tu ne peux pas mettre trop le jour que tout le monde attendait tellement d'un coup comme ça, crise cardiaque. Yaakov Avinu aussi. Comment ils ont fait pour annoncer la nouvelle que Yosef est né? Serach, la fille de Asher, est venue, a commencé à jouer du violon. Et elle chante comme ça, puis en passant, elle dit Yosef, tadadam, tadadam. Oh, Yosef, peut-être, il est vivant. Tadadam. Alors, Yaakov, il est comme ça, en train de dire Yosef, peut-être, vivant. Il est en train de chanter comme ça. Et lentement, c'est rentré comme ça, en musique, hop, on a pu lui annoncer comme ça la bonne nouvelle. Ce sont des choses de Chazal qui doivent être non seulement l'histoire. L'histoire raconte que c'est rare. La Gemara raconte que c'est rare. Pour annoncer cela, elle est encore vivante. Elle est rentrée au paradis sans passer par la mort. Elle a tellement, c'était grand d'annoncer cette nouvelle à Yaakov comme il se doit. C'est un très très grand mérite.
Et pour ce qui est des attentats, des choses comme ça, il faut dire, il ne faut pas dire, il vaut mieux pas dire.
Donc, à qui? Quoi?
Quand c'est arrivé, c'est le genre de choses à transmettre ou même pas?
Bien sûr, c'est des choses à transmettre. Pour prier, il faut prier. Il y a eu un attentat. Bon, c'est pas.
Dès qu'il y a un attentat, on a tous nos parents qui ont une peur incroyable. On leur fait une peine quelque part. Quoi,
Mais ils sauront. Mieux vaut que tu appelles tout de suite que dire tout va très bien. Il y a eu un attentat, je suis vivant, Baruch Hashem. Attendre qu'eux apprennent. C'est vrai qu'on était à l'armée, j'étais au Liban. Et premier équipe à venir avoir un week-end. Le plus longtemps, j'étais resté le plus longtemps sans congé. Donc le premier qui a pu sortir du Liban là-bas, en congé de l'unité, c'était moi-même. Et il y a un piège très grand. Parce que tout le monde te dit, appelle la famille pour dire que ça. Il n'y a pas à l'époque des téléphones, tout ça, il n'y a rien. Il y a silence radio pendant 2 semaines. Les parents, ils sont comme ça, ils ne savent pas ce qui se passe. Alors tu peux appeler les parents, bonjour. Je suis dans l'unité de votre fils. Et je voulais vous dire, en attendant, le parent peut faire une crise cardiaque. Je suis dans l'unité de votre fils. Je voulais vous dire que, d'accord, il peut faire une crise cardiaque. Donc on commençait. Vous avez les salutations de votre fils. Ah oui, oui, je suis dans son unité, tout va très bien, bah, Rachel, etc. C'est quand même une façon de faire. Si tu annonces la chose, et une fois, une personne je vous remercie d'avoir dit les choses comme ça. Parce que c'est des fois, c'est 2-3 secondes, la personne, le corps, il est quelqu'un qui est sensible. On ne sait pas qu'il y en a au bout du fil. Donc, faire les choses intelligemment. Chaque cas, à nous d'être intelligents, savoir qui, quoi, comment. Il y a eu des cas, c'est très connu, des gens qui sont morts ainsi, et c'est très dommage d'avoir la conscience, sur la conscience, la mort de quelqu'un, parce qu'on était un peu trop rapide dans les nouvelles annonces. Les bonnes ou les mauvaises nouvelles. La Gemara raconte une bonne nouvelle. Rabbi Hanania, 12 ans, était absent de chez lui, était l'étudié de la Torah. À l'époque, les rabbinim partaient comme ça, des très très longues époques. Et il revient à la maison. Sa femme le voit, crise cardiaque, elle meurt.
C'était courant,
mais c'est pas courant qu'il revient après. 12 ans, elle l'a pas vu, tout d'un coup, paf, me voici. T'imagines le choc?
La voisine a eu la même chose. Son mari, il est parti 12 ans et il est revenu.
La voisine à qui?
La voisine de celle qui est morte.
Ok, mais quand il revient...
Ça arrive, quoi, c'était courant à l'époque.
Oui, mais le retour, quand même, ça lui fait très mal. Pas très mal, elle est surprise, elle est tellement heureuse. D'accord, tac, 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 boum, rase le chaleur. Alors l'histoire a fini bien, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité. Oh, Rabbi Hanania, c'est pas un problème, il a ressuscité. Son élève, il a dit, moi je vais pas faire comme mon Rav Hanania, il est venu, il est allé dans la ville, il est allé au Beth Midrash, il a dit, annoncez, allez dire à ma femme, je suis rentré, je suis au Beth Midrash, j'arrive bientôt. Alors, ça c'est un exemple aussi de comment annoncer une bonne nouvelle, lentement, sans faire peur. Dans tous les cas où on fait peur à quelqu'un, pas au niveau peur de une peur subite, mais on utilise la menace. D'accord? Attention, je vais te frapper. Ce mouvement-là, apparaît dans la Torah. Moshe Rabbeinu sort voir ses frères en train de souffrir dans l'esclavage. Lui habite la maison de Pharaon. Du coup, il voit un juif qui lève la main sur un juif. Il n'a pas frappé. Il lève la main. Il lui dit, Racha, mécréant, lama takerecha, pourquoi tu veux frapper ton prochain? De là, apprend la Torah. Gemara dans Sanhedrin dit, tout celui qui lève la main sur son prochain, lève, pas il frappe, il lève la main, il est appelé Racha. Il n'est pas sous les doutes, il est impropre à être témoin. C'est-à-dire, tu le prends maintenant, sois mon témoin à mon mariage. Le mariage est nul et non avenu, ça ne vaut rien du tout, il n'est pas marié le type. Encore une chose, et il n'est pas sous les chevaux, il est impropre à jurer. S'il y a des cas dans les tribunaux rabbiniques, on demande à quelqu'un de jurer, lui, il ne peut pas jurer. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout. À la plus forte raison qu'il attrape à la gorge, a de fortes raisons qu'il le frappe, ou il sort un couteau, des choses de, d'accord. Toutes ces choses-là, on utilise maintenant la force physique, on menace les forces physiques, après la Torah, raus, terminé. S'il fait tchouva, bien sûr, tchouva c'est deux, aller voir la personne, dire je m'excuse, je regrette ce que j'ai fait, je demande pardon, et après cela faire tchouva par rapport à Dieu. Dieu, j'ai péché, j'ai levé la main sur mon prochain, et j'en fais tchouva. Et tant qu'il n'a pas fait ça, ce monsieur, il est pas sous les doutes. Pas valable pour être un témoin. Rachat, etc., tout ce que j'ai dit. Donc attention, messieurs, c'est des choses qui peuvent être... Bon, Rachat, chez nous, c'est pas courant, mais ça peut arriver. Dans tous les cas où quelqu'un est maître d'un public, par exemple, le PDG d'une boîte, et il fait peur à ses employés. Il est dur avec eux, il leur fait des menaces, et les employés tremblent. Il le fait de façon, si c'est le Shem Shamayim, si c'est pour des raisons désintéressées du service divin, ce qui est rare pour un cas d'un PDG, d'accord ? Alors il peut le faire. Mais si c'est pour des questions d'intérêt, il veut monter le rendement de sa boîte, et pour de cela, il se comporte comme un tyran par rapport à ses employés, alors c'est aussi extrêmement grave aussi, il transgresse l'interdit de Onat Dvari. On continue. Un autre domaine tout à fait maintenant, faire un mauvais conseil à quelqu'un, donner un mauvais conseil. Quelqu'un vient, me pose une question. Qu'est-ce que tu penses? Comme ci ou comme ça. Maintenant, moi, j'ai un intérêt dans l'histoire. Je vais et je lui donne un mauvais conseil. Il est certain que c'est interdit. Bien que tu es très gentil et tu as même passé la pommade, d'accord, tu l'as conseillé très gentiment de faire ce qui est mauvais pour lui, tu te rends interdit, deux interdits. L'interdit onat dvarim, donc faire du mal avec la parole, et l'interdit de l'ifner iver l'otetem mirchol. Tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Lui, il est aveugle et maintenant tu lui mets un obstacle pour qu'il trébuche, d'accord, qu'il fasse la mauvaise affaire d'après tes bons conseils, entre guillemets, bons conseils. Tout cela, c'est dans le cas où j'ai un intérêt. C'est-à-dire, s'il fait mon mauvais conseil, que lui considère comme un bon conseil maintenant, je vais gagner. Là, j'ai pas le droit de le faire, même si j'ai un manque à gagner. Mais si maintenant, j'aurais une perte en lui disant maintenant le bon conseil, par exemple, quelqu'un vient, moi, je loue la maison de quelqu'un. Le propriétaire vient un jour me voir, il sait que moi, je suis agent immobilier, je m'y connais très bien en immobilier, il me dit, écoute, j'aimerais avoir un conseil. Est-ce que tu penses que c'est bien que je vende ma maison ? La vérité, c'est vrai que c'est bien pour lui. Maintenant, il gagnerait bien, le marché est bien. Mais s'il vend sa maison, moi, je me retrouve à la rue. Je dois quitter. Je vais être endommagé par le fait que je lui donne le bon conseil. J'ai le droit de lui dire, écoute, je ne sais pas. J'ai le droit de me retirer. Lui dire, non, actuellement, c'est pas bien, ne vends pas. Ça, c'est un faux conseil, c'est interdit. J'ai le droit de lui dire, écoute, je ne m'y connais pas très bien, demande à quelqu'un d'autre. Ça, j'ai le droit de me retirer pour pas moi-même être l'agent qui va me torpiller moi-même. Ça, c'est permis. Mais dans tous les autres cas, on sera obligé de dire la vérité, de lui dire vraiment le bon conseil, même si on a un manque à gagner dans ce bon conseil qu'on lui donne. Ok. Donc ça, c'est au niveau des conseils. On continue ou bien ? Hein ? Moi, ben, très bien. Et encore un sujet important qui est là ce courant dans les internats, c'est le problème de vol. Pas le vol que les gens vont dans les armoires des autres dans prendre de l'argent dans leurs... Ça, on s'en parle pas, ça c'est évident. Un vol beaucoup plus grave. Parce que l'argent qu'on a volé, on peut toujours faire tchouva et le rendre à la personne. Mais un vol qu'on peut jamais rendre, qu'est-ce que c'est ? Le vol du sommeil. Gezel Shena. Qui est très facile, tu fermes une porte, bing, tu prends ta douche à 1h du matin, schlonk, d'accord, tu éternues un peu trop fort, tchoumf, d'accord, qu'est-ce que j'en sais, toutes les sortes de bruits qui dérangent et qui dérangent, sans parler qu'ici c'est un internat de Torah, donc ça fait après le type il ne peut pas dormir, donc il est moins bien à Torah, et c'est Biltou Torah, il y a moins de Torah, il y a moins de bien dans le monde, il y a moins de bien dans le monde, c'est terrible, ce que ça peut amener comme chose terrible, Biltou Torah, Kanegan Koulam, Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'idolâtrie, l'adultère, mais pas Biltou Torah, et ce type-là, il va maintenant, il ferme la porte, bing, comme ça, alors que les gens dorment.
Biltou Torah, c'est dire quoi Biltou Torah ?
Que tu peux étudier et tu n'étudies pas. On te fait faire moins de Torah. Tu aurais pu étudier et tu ne peux pas étudier. Pourquoi ? On t'a fatigué cette nuit. Alors, c'est le moustique qui est venu, qui fait bzzz dans l'oreille. Ok, c'est lui qui paiera pour le Bitul Torah. Mais si c'est ton voisin, hein, si c'est ton voisin, hein, alors... Et ça, je ne saurais trop mettre l'accent là-dessus, parce que c'est une chose qui est courante et qu'on ne peut pas rendre. Quelqu'un dort à 4h d'après-midi, on peut le réveiller. Quelqu'un va dormir à 10h du soir, on peut le réveiller. Mais au moment où ça devient déjà les horaires normaux, les gens vont dormir. Et horaire normal, c'est pas plus de 11h30, après 11h30. Même en Israël, ça devient les heures déjà anormales pour faire du bruit. On n'est pas en Suisse, à 8h tout le monde dort, d'accord? Je vois à 11h30, d'accord, en Israël. À Bnei Brak rajoute encore une heure, minuit et demi. Mais à Jérusalem, c'est 11h30. La sieste, ici, ça fait partie des heures, on ne peut pas faire de bruit. Entre 2 et 3, ici en Israël, on fait la sieste, donc tu ne peux pas aller commencer à faire du bruit à ces heures-là. Tu ne peux pas prendre ta guitare, ta batterie, n'importe quoi. Tu ne fais pas de bruit, terminé. Terminé. Sans aucun recours du tout. Comme tu dis. Si quelqu'un dort dans les heures où ce n'est pas habituel de dormir, est fatigué, il va à 10 heures au lit, alors tu as le droit de faire du bruit. Mais néanmoins, midat chassidut, c'est une mesure de piété, de prendre en considération, de ne pas lui faire du mal non plus. Lui est dans son tort, parce que c'est pas les autres. Il ne peut pas loger tout le monde maintenant dans la chambre à dormir parce que monsieur veut dormir, il est 10 heures. Mais néanmoins, on a le droit de prendre en considération qu'il est en train de dormir. Je peux écouter maintenant le dernier tube de à plein décibels, je mets ça avec le casque, c'est permis aussi. D'accord? Je joue la guitare, j'irai à côté ma percussion, ben je la laisserai pour demain. D'accord? On peut faire cela. C'est une mesure de piété. Si on a une nécessité, alors on pourra faire du bruit, parce que désolé, mon vieux, à 10h, c'est l'heure où on est encore tous en train de se préparer, il n'y a aucune raison qu'on fasse attention maintenant.
Ah, et si moi je suis en train, je suis dans le Beit Midrash, et je fais du bruit vers minuit par exemple, et je dis ouais, non, pas tes chers, machin, etc.
Ça dérange? Il faut mettre la sourdine. Il faut mettre la sourdine.
Même entre midi et deux.
Aussi. Tu n'es pas obligé de crier, d'accord? Il y a des gens qui dorment. Tu peux étudier. Étudier.
Et si on a fait le Dachina?
Pardon?
Et si on a fait...
Il faut demander pardon. Maudire son prochain. Nous avons un pouvoir dans notre bouche. Chazal dit que celui qui maudit, alors son shoresh, la racine de son âme, elle est mauvaise. Ça prouve que dans son âme, il n'est pas... Comment tu vas maintenant? Tu vas... On est un seul peuple. On va, on maudit l'autre. Va, béni! On a une puissance dans notre bouche qui est énorme.
C'est parce qu'il a été dégoûtant, horrible avec nous. Vraiment...
T'as pas le droit de maudire. Ok, t'as pas à le maudire, t'as pas à le maudire.
C'est également par la pensée ou
non,
c'est
bien
par
sûr,
la
parole. Encore,
parole.
Un homme n'y fasse mais ça, c'est marqué dans l'agma. Un homme, il n'est pas pris sur...
Ok, il est en état maintenant, en état
hier,
de...
Sur hier, ça a été dit.
D'accord, quelqu'un maintenant, il est dans la chaleur, quelqu'un a tué son fils, et lui, il va, il maudit l'assassin. Ok, on peut comprendre que c'est une chose qui est humaine, mais néanmoins, la malédiction est interdite. T'as pas à les maudire, il y a le monde qui s'occupe de tout. En parenthèse, dire, ok, Dieu s'occupera de lui, c'est aussi interdit. C'est pas que c'est interdit, c'est marqué Moser din Hashamayim. Celui qui Moser, qui transmet le jugement à Dieu, elle se marquait que dans le ciel, on va d'abord le juger à lui. Toi qui es tellement sûr que ton dossier, il est nickel, tiens, amène-moi ton dossier, tu me demandes à moi de régler, voyons d'abord ton dossier à toi. D'accord? C'est pas bien du tout d'aller et de dire, ok, Dieu s'occupera de lui. Dieu s'occupe de toute façon. On ne va pas s'occuper d'être bon Dieu à la place du bon Dieu. D'accord? Dieu, il gère le monde. T'as pas l'air à maudire. C'est mal. Ça prouve que tu es mal dedans et tu veux qu'il y ait le mal autour de toi.
Il y a des médecins qui disent qu'à quel jour il n'y en a pas tenu compte à Iyov du fait qu'il a blasphémé dans son tsar.
C'est comment ce que je suis en train de t'expliquer. C'est que quand quelqu'un il est maintenant dans la chaleur, il est on vient de perdre un fils, c'est le cas de Iyov, et il fait des actes qui sont inconsidérés, on comprend qu'il n'avait pas sa tête à lui. On est certain que Dieu sera indulgent. Oui, mais ça veut pas dire que ça devient permis. C'est pas permis. Ok, monsieur, on s'arrête ici. Bah, ou Radonaï, l'homme va me...